Chapitre 4.
Les jours passent et le voyage se poursuit sans problème. Le 5 décembre, dès 5 heures du matin, les trois amis se lèvent. C'est le dernier jour de leur voyage si les calculs sont exacts. Ce soir, à minuit, au moment précis de la pleine lune, ils doivent atteindre l'astre des nuits. Dès le matin, à travers les hublots, ils saluent la lune d'un joyeux « Hurrah !» D'après ses propres observations, Barbicane calcule qu'ils vont l'accoster par son hémisphère nord, là où s'étendent d'immenses plaines. La réussite d'une telle opération semble donc possible. Cependant, quelque chose préoccupe Barbicane. Mais ne voulant pas inquiéter ses compagnons, il garde le silence sur ce sujet. En effet, la direction que le projectile suit vers l'hémisphère nord de la Lune est légèrement changée. Le tir devait porter le boulet au centre même de la Lune. S'il n'y arrive pas, cela signifie qu'il y a eu une déviation. Qu'est-ce qui l'a produite ? Voilà la question que Barbicane se pose. Mais ne pouvant donner de réponse, il préfère continuer à observer la Lune sans rien dire de ses inquiétudes. Cependant, les voyageurs ne cessent d'observer ce monde nouveau qu'ils vont bientôt pouvoir examiner de plus près. Ils prennent des notes sur tout ce qu'ils voient et font toutes sortes de commentaires. Nicole pose soudain une question qui ne trouve pas de solution immédiate.
« Ah, ça !» dit-il. « C'est très bien d'aller sur la Lune, mais comment allons-nous en revenir ?»
Ses deux compagnons se regardent d'un air surpris.
« Que voulez-vous dire, Nicole ?» demande Barbicane. « Demander comment revenir d'un pays, ajoute Michel, alors qu'on n'y est pas encore arrivé, me paraît étrange. « Je ne dis pas cela pour faire marche arrière, dit Nicole. Je veux uniquement savoir comment nous allons revenir. »«
Je n'en sais rien, répond Barbicane.
« Et moi, dit Michel, j'y vais justement pour savoir comment en revenir. »
« Ça, c'est une réponse !» s'écrie Nicole.
« Je suis d'accord avec ce que dit Michel, » déclare Barbicane, « et j'ajoute que la question n'a aucune importance pour le moment. Plus tard, quand il faudra revenir sur la Terre, nous essaierons de la résoudre. »«
Maintenant que je ne suis pas sûr de revenir de la Lune, » dit Nicole d'un ton sec, « je veux savoir ce que nous allons y faire. »
« Ce que nous allons y faire, » répond Barbicane en frappant du pied, « je n'en sais rien !»
« Tu n'en sais rien !» s'écrie Michel avec un hurlement qui résonne dans le projectile.
« En effet, je n'en sais rien !» crie Barbicane.
« Eh bien, je le sais, moi !» répond Michel.
« Parle donc, alors !»
crie Nicole, qui semble ne pas pouvoir contrôler le ton de sa voix.
« Je parlerai si j'en ai envie !»
s'écrie Michel en saisissant avec violence le bras de Nicole.
« Tu dois parler !»
crie Barbicane en levant la main comme s'il voulait le frapper.
« C'est toi qui nous as entraînés dans ce voyage, et nous voulons savoir pourquoi !»«
Oui !»
dit Nicole. « Maintenant que je ne sais pas où je vais, je veux savoir pourquoi j'y vais !»«
Pourquoi ?»
répète Michel en faisant un saut d'un mètre.
« Pourquoi ?»«
Pour prendre possession de la Lune, pour voir si les Sélénites sont plus civilisés que nous !»«
Et s'il n'y a pas de Sélénites ?»
demande Nicole.
« Qui dit qu'il n'y a pas de Sélénites ?» s'écrie Michel d'un ton dur.
« Moi !»
hurle Nicole.
« Capitaine !» dit Michel. « Cesse de dire des stupidités ou je ne sais pas ce que je vais te faire !»
Les deux hommes vont se jeter l'un sur l'autre et cette étrange discussion devient violente. Heureusement, Barbicane dit à ce moment-là, en se plaçant entre ses deux compagnons,
« Arrêtez, malheureux !» S'il n'y a pas de Sélénites, bien, ça n'est pas si grave.
C'est alors que les trois compagnons ont une drôle de sensation. Ils ont l'impression d'être ivres et que leurs poumons sont en feu. Puis ils tombent sans mouvement sur le sol du projectile. Que s'est-il passé? Quelle est la cause de cette ivresse qui peut avoir des conséquences mortelles? Elle est due à une simple étourderie de Michel que Nicole peut, heureusement, arranger à temps. Après quelques minutes d'inconscience, le capitaine peut à nouveau bouger. Il a déjeuné 2 heures avant, mais il ressent une faim terrible. Il se relève et demande à Michel de lui préparer quelque chose à manger. Michel, inconscient, ne répond pas. Nicole décide alors de se préparer du thé et quelques sandwichs. Il frotte une allumette pour faire du feu. À sa grande surprise, le soufre se met à briller d'un éclat extraordinaire, qui éblouit presque. De la lampe qu'il allume sort une flamme qui éclaire énormément. Tout devient alors clair dans son esprit. « L'oxygène !» s'écrie-t-il. Et, se penchant sur l'appareil à air, il voit que le robinet laisse échapper ce gaz incolore, sans odeur, indispensable à la vie, qui, à l'état pur, produit de très graves troubles à l'intérieur du corps. Par étourderie, Michel a ouvert en grand le robinet de l'appareil. Nicole se dépêche de le fermer. Une heure après, l'air ne brûle plus les poumons. Peu à peu, les 3 amis se sentent moins ivres. Quand Michel apprend qu'il est responsable de cet incident, il ne se sent pas vraiment coupable. Beaucoup de bêtises ont été dites à cause de l'ivresse due au gaz, et les 3 hommes sont même devenus méchants et coléreux pendant un moment. Mais tout est vite oublié, et ils finissent par rire de cette histoire.